13h ici à Paris, 2h de moins en temps universel.
Clotilde Dumay.
RFI Midi, bonjour à tous, bienvenue pour ce tour du monde de l'actualité à la mi-journée avec nos correspondants, nos reportages, nos invités. Pour revenir notamment sur cette frappe russe à Soumy en Ukraine, au moins 34 morts, l'une des frappes les plus meurtrières de ces derniers mois. Alors que les États-Unis ont entamé avec Moscou des négociations qui patinent, le président ukrainien Volodymyr Zelensky veut prendre Washington et Donald Trump à témoin.
We want you to come.
Nous voulons que vous veniez et je pense que vous devez venir et voir. Vous pensez comprendre ce qui se passe ici? D'accord. Nous respectons votre position, vous comprenez. Mais s'il vous plaît, avant toute décision, tout format de négociation, venez voir les gens, les civils, les militaires, les hôpitaux, les églises, les enfants détruits ou morts. Venez, regardez et ensuite nous avancerons sur le plan de la fin de la guerre.
La guerre en Ukraine et les négociations entre Washington et Moscou, on va faire le point dans une demi-heure. La politique américaine aussi, en matière commerciale, et Donald Trump qui multiplie les annonces contradictoires sur les droits de douane. Pendant ce temps, le président chinois entame une tournée en Asie du Sud-Est. Alors quel est l'objectif de Xi Jinping? Jusqu'à quel point peut-il compter, notamment sur le Vietnam? Analyse à suivre d'Emmanuel Véron, géographe spécialiste de la Chine contemporaine. Ce sera vers 12h15, temps universel. Juste après, reportage en Cisjordanie occupée. À la rencontre d'une communauté religieuse plus méconnue que les juifs et les chrétiens, les samaritains. Ils ont à la fois la nationalité palestinienne et israélienne et se sentent forcément tiraillés depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza.
On croit en la solution à deux États, un État palestinien aux côtés d'Israël. Il ne peut pas y avoir de paix sans l'existence des deux pays. Et nous, nous voulons la paix.
Un reportage à écouter donc dans trois quarts d'heure environ. Actualité chargée également sur le continent américain avec la victoire en Équateur de Daniel Noboa. On y reviendra en direct depuis Quito et puis avec Christophe Ventura, spécialiste de l'Amérique latine. Et puis la mort également au Pérou de Mario Vargas Llosa. Sans oublier l'actualité africaine, on va revenir notamment sur la victoire au Gabon de Brice Clotaire-Oligui Nguema. Voilà pour le programme. Mais d'abord le journal. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
Et on le disait, en pleine guerre douanière avec Washington, Xi Jinping entame donc une tournée en Asie du Sud-Est.
Le président chinois est formel, le protectionnisme ne mène nulle part. Son but est de renforcer les relations commerciales et diplomatiques de Pékin avec les pays de la zone. Après le Vietnam, il se rendra en Malaisie, puis au Cambodge. À Pékin, Cléa Bodrust.
Le président chinois entame sa visite au Vietnam où il devrait signer une quarantaine d'accords de coopération dans des domaines clés, transport ferroviaire, agriculture, numérique ou encore développement vert. Mais la relation reste complexe, le Vietnam ayant récemment imposé des droits anti-dumping sur l'acier chinois. Prochaine étape, la Malaisie, où cette visite est présentée comme une étape importante dans les relations bilatérales. Les discussions devraient porter sur le commerce et les infrastructures. Le Cambodge, lui, reste l'un des plus proches alliés de Pékin. Le pays vient d'achever avec le soutien chinois la modernisation d'une base navale stratégique. L'Asie du Sud-Est est une zone économique cruciale pour Pékin. En 2024, les pays de l'ASEAN ont été les premiers clients des exportations chinoises, avec en tête le Vietnam et la Malaisie. Xi Jinping veut aussi mettre l'accent sur la coopération dans les technologies émergentes, comme la 5G ou l'intelligence artificielle, pour renforcer les chaînes d'approvisionnement régionales. Sur fond de guerre commerciale avec les États-Unis, Pékin veut se poser en partenaire stable face à une Amérique de plus en plus imprévisible, en misant sur la coopération régionale, l'innovation technologique et l'intégration économique. Cléa Broderst, Pékin, RFI.
On reviendra donc sur cette visite dans un peu plus d'une heure sur RFI avec Emmanuel Véron, géographe spécialiste de la Chine contemporaine. Yoon Suk-yeol est formel, Karine, il n'a pas commis d'acte d'insurrection lors de sa tentative d'imposer la loi martiale en décembre.
L'ex-président sud-coréen comparaît libre au premier jour de l'examen sur le fond de ce dossier au pénal, une procédure où il risque la prison à vie. Yoon Suk-yeol entend réfuter point par point les accusations. La correspondance de Celio Fioretti.
Une longue journée au tribunal pour l'ancien président, présent à la première véritable audience de son procès au pénal dans l'affaire de la loi martiale qui lui a coûté son mandat présidentiel. Entouré de 11 avocats, l'ancien procureur devenu président s'est défendu lui-même pendant près d'une heure et demie. Le parquet accuse Yoon Suk-yeol d'avoir mené une insurrection contre l'État, un crime passible de la prison à perpétuité ou même de la peine capitale. Face aux 101 pages du dossier constitué contre lui et des témoins appelés à la barre, Yoon Suk-yeol nie toute entrave à l'état de droit dans sa tentative d'imposer la loi martiale qu'il qualifie d'un simple acte de gouvernance. un argument qui avait déjà échoué à convaincre les juges de la Cour constitutionnelle qui ont confirmé sa destitution il y a 10 jours. Ce procès au pénal est encore loin d'être terminé pour le président Yoon qui devra comparaître à nouveau le 21 avril. Célio Fioretti, Séoul, RFI.
En Ukraine, les condamnations se multiplient depuis l'attaque de Soumy qui a fait au moins 34 morts et une centaine de blessés.
C'est la frappe la plus meurtrière depuis des mois dans le pays. Pour Donald Trump, c'est une chose horrible, mais le président américain n'a pas évoqué la responsabilité russe. Moscou a frappé dimanche matin avec des missiles le centre-ville de Soumy, alors que les rues étaient pleines de monde. C'est un crime de guerre grave, délibéré et voulu pour le futur chancelier allemand, Friedrich Merz. Le cessez-le-feu proposé par Washington en mars, accepté par Kiev, est resté lettre morte face au refus de Moscou. Un énorme trou béant dans un établissement de Gazaville, des portes du bâtiment arrachées. Une frappe israélienne a mis à l'arrêt l'un des rares hôpitaux qui était toujours en activité dans l'enclave palestinienne. L'État hébreu promet désormais d'étendre son offensive à Gaza après avoir mis fin à la trêve le mois dernier. L'Organisation mondiale de la santé dénonce la mort d'un enfant décédé à cause de l'interruption des soins. Israël affirme avoir ciblé un centre de commandement du Hamas. Sur un autre front, l'armée israélienne annonce avoir intercepté hier un tir de missile en provenance du Yémen. Les rebelles houthis ont eux affirmé que des frappes américaines avaient fait 5 morts et 13 blessés à l'ouest de la capitale Sanaa.
Téhéran et Moscou vont évoquer ensemble les pourparlers sur le nucléaire qui ont lieu avec les Américains en ce moment.
Le ministre iranien des Affaires étrangères se rendra dans les prochains jours au Kremlin pour des consultations. Un déplacement prévu depuis longtemps, mais qui permettra d'aborder les derniers développements liés aux négociations. Le prochain round de discussion se tiendra à Rome samedi prochain, toujours sous l'égide d'Oman. Le chef de l'AIEA, l'agence atomique, ira lui à Téhéran mercredi.
Un nouveau regain de tension entre Paris et Alger.
Après une petite accalmie, les autorités algériennes ont décidé d'expulser 12 fonctionnaires français. Une décision prise, dit Alger, après l'arrestation de ressortissants algériens en France. Vendredi, 3 hommes, dont l'un employé de l'un des consulats d'Algérie en France, ont été mis en examen à Paris. Cette affaire concerne l'enlèvement de l'opposant au régime algérien, l'influenceur Amir Dezed. Dès samedi, le ministère algérien des Affaires étrangères avait dénoncé une cabale judiciaire inadmissible. Le gouvernement français menace à son tour de prendre des mesures de rétorsion.
En France, justement, alors que le nombre de consommateurs de cocaïne a doublé entre 2022 et 2023, selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, eh bien, Médecins du Monde attaque l'État devant le tribunal administratif.
L'organisation l'accuse de ne pas avoir mené à bien les expérimentations des haltes soins addiction. Ce sont des salles de consommation de drogue et d'accompagnement pour les personnes addictes. Il en existe deux en France depuis 2016, à Paris et à Strasbourg, mais elles auraient dû être plusieurs à ouvrir, notamment à Marseille, Lille ou Lyon. Les expérimentations se terminent à la fin de l'année. Médecins du Monde souhaitent qu'elles se pérennisent et assurent que l'État ne respecte pas ses engagements en matière de santé publique. Tanita Fallet.
Médecins du Monde accuse l'État d'empêcher l'ouverture de haltes santé addiction, les HSA, même si elles sont pour l'instant de simples expérimentations.
Il y a une carence dans le fait de mener cette expérimentation.
Adrien Perret-Calazel est juriste au sein de l'ONG.
Il y a eu une obstruction active de l'État pour ouvrir des salles. Par exemple, la salle de Marseille pour laquelle on fait un recours, où il y a clairement eu une intervention politique de la part du gouvernement pour empêcher l'ouverture de cette salle.
Une faute grave, car l'État doit mener des politiques de santé publique, selon l'ONG. Point de vue partagé par la Fédération Addiction qui réunit des addictologues. Catherine Delorme en est la présidente. Pour elle, les HSA permettent aux personnes marginalisées de consommer sainement, mais surtout
d'avoir un coin pour se reposer, d'être en contact avec des travailleurs sociaux. C'est une des portes d'entrée du dispositif pour les plus précarisés, les plus marginalisés qui sont sous les radars, quoi.
Une situation qu'a longtemps duré Franck.
J'ai 55 ans, à 15 ans j'ai été mis en foyer. À 19 ans, je me suis retrouvé une première fois à la rue, jusqu'à l'ouverture de la salle, ce qui m'a permis de refaire les papiers, enfin reprendre une vie à peu près normale.
Et d'être embauché au sein de la structure, l'année dernière, il a participé à accompagner les près de 800 personnes qui sont venues dans ces structures.
Direction le continent américain, à présent en Équateur. Les résultats officiels de la présidentielle sont contestés par l'opposition. Le président sortant a été déclaré vainqueur, une large victoire avec 56% des voix pour Daniel Noboa, tenant d'une ligne dure en matière de sécurité, mais sa rivale de gauche, l'avocate Luisa González, dénonce une fraude électorale massive et réclame un recomptage des voix. C'est un allié que Donald Trump va recevoir aujourd'hui à la Maison-Blanche. Le président du Salvador, Nayib Bukele, fait le déplacement à Washington. Tous deux sont sur la même longueur d'onde concernant les expulsions d'immigrés sans papier. Nayib Bukele a accepté que plus de 250 personnes expulsées des États-Unis soient incarcérées au Salvador, dans la gigantesque prison qu'il a fait construire dans le cadre de sa guerre contre les gangs. La plupart sont des Vénézuéliens.
Et puis le prix Nobel de littérature hispano-péruvien Mario Vargas Llosa est décédé hier à Lima à l'âge de 89 ans.
Il a été le premier écrivain étranger à entrer de son vivant dans la prestigieuse collection de la Pléiade en 2016. Le gouvernement péruvien a décrété un jour de deuil national et annoncé la mise en berne des drapeaux sur les bâtiments publics. Bonjour Olivier Roger.
Bonjour.
Auteur de romans, de théâtre, d'essais, Mario Vargas Llosa était le dernier géant de l'âge d'or de la littérature latino-américaine.
Oui, vous savez ce qu'il disait, le plus grand événement de ma vie, je l'ai vécu à l'âge de 5 ans, lorsqu'il a découvert la lecture et les vies qu'elle lui offrait. On n'apprend pas à dominer le monde à travers les mathématiques, mais en lisant les romanciers, disait-il encore, convaincu du pouvoir de l'écriture. Elle fut d'abord un moyen d'échapper à un père autoritaire qui voulait faire de lui un militaire. Elle fut ensuite le moyen de raconter la vie, et en particulier sa vie. Son roman le plus célèbre, La Tante Julia et le Scribouillard, narre les aventures d'un jeune écrivain amoureux de sa tante de 15 ans, son aînée, texte autobiographique, puisqu'à 21 ans, Mario s'enfuit avec Julia, provoquant un scandale. Il la quittera des années plus tard pour épouser sa cousine. Entre-temps, Mario Vargas Llosa découvre l'Europe et Paris. La France l'a profondément marqué sur le plan littéraire. C'est d'ailleurs à Paris qu'il découvre la littérature latino-américaine dans toute son extension. Il rencontre notamment Gabriel Garcia Marquez. Sur le plan littéraire, ce dandy séducteur était un conteur hors pair, enchaînant les chefs-d'œuvre, La ville et les chiens, La guerre de la fin du monde, La fête au bouc, pour n'en citer que trois, dans une œuvre foisonnante. Son talent à décrire les dictatures et les passions humaines n'avait d'égal que son style et sa magistrale maîtrise du récit.
On retiendra dominer le monde en lisant. Olivier Roger, du service culture d'RFI.
Et c'était le journal de Karine Bellicha, merci beaucoup.
RFI, la France à midi.
À 5 ans après l'épidémie de Covid-19 qui a fragilisé les services de santé en France, et pour briser le silence et en finir avec une vague de suicides à l'hôpital public, eh bien plusieurs plaignants saisissent de façon inédite la justice. D'après les informations de nos confrères du Monde et de France Inter, une plainte visant à la fois la ministre du Travail, Catherine Vautrin, la ministre de l'Enseignement supérieur, Elisabeth Borne, et le ministre délégué chargé de la Santé, Yannick Neuder, a été déposée jeudi 10 avril devant la Cour de justice de la République. Cette instance est la seule apte à juger des ministres pour des faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions. Bonjour Laurence Théo.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
Un journaliste au service France de RFI. Alors d'abord, quelles sont les personnes qui portent plainte?
Alors la palette est large, il y a des infirmiers, des directeurs d'hôpitaux, des chefs de service, des professeurs praticiens en faculté de médecine ou encore des veufs ou veuves de soignants qui se sont suicidés. Toutes les spécialités médicales, cardiologie, gynécologie, pédiatrie, sont concernées. Les plaintes proviennent des régions de toute la France. Et il faut aussi savoir que ces 19 plaignants ne se connaissent pas.
Alors, qu'est-ce que ces plaignants reprochent précisément au ministre?
Alors, tout d'abord, ces trois membres du gouvernement sont attaqués en justice pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. En préambule de la plainte, on peut lire « épidémie de suicide », les mots sont forts, « harcèlement moral », « homicide involontaire » et « violence volontaire » ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner et mise en danger de la personne. Alors Clotilde, si Elisabeth Borne, l'actuelle ministre de l'Éducation nationale, est concernée, c'est qu'elle était à l'époque ministre de l'Enseignement supérieur, donc en charge de l'enseignement de la médecine, et avait autorité disciplinaire sur les professeurs en fac de médecine. Et les plaignants pointent aussi cette phrase sans cesse répétée par les politiques: quand vous acceptez les fonctions de ministre, vous êtes responsable.
Cette plainte, Laurence, elle dénonce des conditions de travail totalement illégales et mortifères.
Oui, mortifères, le mot est fort lui aussi, hein, mortifère qui provoque la mort. La liste est longue, sont pointés des rythmes insoutenables dans tous les corps médicaux. Les infirmières et les aides-soignants sont en première ligne. La mécanique d'emprise pour organiser illégalement le surtravail, réquisition de personnel, menaces, travail forcé en dehors de tout cadre réglementaire, ainsi que le management totalitaire. Dans le document que nos confrères du Monde et de France Inter ont pu consulter, il est mentionné qu'un infirmier qui s'est pendu dans son bureau, c'était en septembre 2023, a mis en cause en plusieurs lettres le comportement harcelant de la direction des ressources humaines.
Alors les points soulevés ne sont pas nouveaux, hein. L'hôpital public français, on le sait, est à bout de souffle déjà depuis des années.
Oui, tout à fait, l'hôpital connaît une crise majeure qui s'est aggravée, je dirais, depuis les années 2010, et la crise Covid-19 n'a rien arrangé. L'avocate des plaignants, maître Christelle Mazza, insiste sur le fait que l'hôpital public s'est transformé en entreprise avec des politiques publiques néolibérales qui, malgré de nombreux signaux d'alerte particulièrement inquiétants, dont des suicides, n'ont pas été corrigés, bien au contraire.
Et cette avocate fait référence à la vague de suicides au sein de l'entreprise France Télécom entre 2006 et 2011.
Oui, bien sûr, Christelle Mazza s'appuie d'ailleurs sur la jurisprudence tirée d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a condamné les dirigeants du groupe de télécommunications en qualifiant le harcèlement subi par les salariés de France Télécom de harcèlement morale institutionnelle. La plainte dont on parle aujourd'hui, Clotilde, contre les ministres, hein, sera étudiée le 19 juin prochain par la commission des requêtes de la Cour de justice de la République.
Les explications de Laurence Théo, journaliste donc au service France pour RFI. À 230 millions de femmes à travers le monde ont déjà subi des mutilations génitales. Ce sont les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. En France, au moins 139 000 femmes sont concernées. Alors pour prévenir les risques d'excision qui peuvent avoir lieu aussi bien dans le pays de résidence que dans le pays d'origine des jeunes filles, eh bien le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles et des mariages forcés intervient dans les écoles à la demande des infirmières scolaires. Reportage d'Amélie Beaucourt dans un collège de Seine-Saint-Denis en région parisienne.
Est-ce que vous savez de quoi on parle quand on parle d'excision ?
Cet après-midi-là, devant une classe d'élèves de 3e, Alice Atandiaï prend la place du professeur. Elle est directrice régionale de la Fédération GAMS, le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles.
Est-ce que vous savez où ça se pratique, l'excision ?
Au Sénégal.
Au Sénégal.
Au Mali.
Au Mali.
En Inde.
En Inde.
En Égypte.
En Égypte ? Non, pas en Tunisie.
Même si ces élèves qui ont 13-14 ans peuvent se dire qu'ils sont complètement éloignés de cela, ils peuvent se dire « mais tiens, mes origines, ma mère, mes tantes, ma grand-mère, est-elle concernée ? Ou est-ce qu'elle sait qu'elle est concernée ? Et comment moi, je peux y échapper ? Ou est-ce que j'y ai échappé ?»
Ok, ça c'est la vulve, donc l'appareil génital de la femme. Et on parle donc du clitoris. Le gland du clitoris, c'est celui-ci qui est coupé lorsqu'on parle de l'excision.
Un jeu de questions-réponses et pour tout support pédagogique, une peluche qu'elle fait passer de table en table.
Alors, c'est un doudou tout doux, rose, où on voit donc le clitoris dans son intégralité, les lèvres. Mais quand tu le regardes, tu vas pas détourner des yeux parce qu'il est assez flashy, il est assez ludique. C'est moins répulsif pour des jeunes, mais même aussi pour les moins jeunes, de l'avoir en main pour se rendre compte de quoi on parle et de quelle partie dont on parle au niveau de l'appareil génital.
Dans la salle, beaucoup d'interrogations, du dégoût, quelques réactions choquées, voire révoltées. La plupart d'entre eux n'avaient pas entendu parler de l'excision. Émilie fait partie des rares exceptions.
Quand j'ai appris que quelque chose comme l'excision existait, je me suis dit, ça change pas d'habitude, quoi. De favoriser l'homme plutôt que la femme, de considérer que c'est la femme qui doit s'abstenir de faire certaines choses comparées à l'homme. Enfin, voilà.
Comment t'en as entendu parler ?
Sur TikTok, c'est une femme qui disait que la pire douleur qu'elle avait eue, c'était d'avoir été excisée. Et du coup, je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai voulu aller faire mes recherches et j'ai trouvé.
Bonjour, je me présente, Sally Diop. Je vais vous parler de mon excision.
Sur les réseaux sociaux, elles sont de plus en plus nombreuses à témoigner face caméra et avec beaucoup de détails. Une nouvelle forme de sensibilisation bienvenue pour Alice Atandiaï.
C'est assez récent. Je trouve que c'est une très très bonne chose.
Et c'est ça l'idée, en fait, de la sensibilisation, de la prévention. C'est casser les barrières. À partir du moment où ça permet de faire de la prévention et de sauver des petites filles, ben on y va.
En France, une femme sur deux qui a été excisée vit en région parisienne. Et c'est précisément ici, en Seine-Saint-Denis, qu'elles sont le plus à risque.
Un reportage à retrouver sur le site internet et l'application Pure Radio de RFI. Il est 13h20 à Paris. Notre invité politique, comme chaque jour sur RFI aujourd'hui, le député Ensemble pour la République de Haute-Savoie, ancien ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Antoine Armand, répond en ligne à vos questions, Véronique Rigolet.
Bonjour Antoine Armand.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre sur RFI. Alors que l'économie mondiale est déjà bousculée, fragilisée par les droits de douane imposés par Donald Trump, eh bien la France, elle, s'apprête à déclarer l'état d'urgence budgétaire. Grande conférence demain avec le Premier ministre François Bayrou, avec à la clé 40 milliards d'économies à trouver pour boucler le budget 2026. Antoine Armand, les Français vont-ils à nouveau devoir se serrer la ceinture ? C'est clairement une cure d'austérité que prépare le gouvernement ?
Je ne crois pas. Je crois que ce que prépare le gouvernement, c'est de faire le point collectivement. Un peu comme on l'a vécu à certains moments importants de notre histoire, d'expliquer que face au désordre du monde, si on veut être plus souverain, si on veut être plus fort, si on veut présenter un visage plus robuste de la France et de l'Europe, eh bien, on doit réduire nos déficits. Et qu'on peut pas le faire au prix de concessions directes de la part des Français qui travaillent, de ceux qui payent des impôts. Donc, ça ne peut pas d'abord être par les impôts. Et que ça ne peut pas non plus d'abord être par les services publics qui sont rendus à la population. Donc, que ça doit se faire au travers d'une transformation de notre État et de notre administration, d'une capacité à réduire progressivement un certain nombre de dépenses administratives qui ne sont pas directement utiles à nos concitoyens.
Antoine Armand, c'est tabou le mot d'austérité, parce que même si on respecte cette promesse qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts, on parle tout de même de 40 milliards d'euros d'économies. Ça va nécessairement toucher la protection sociale, les familles, les chômeurs ?
Quand on parle de 40 milliards, on parle de 40 milliards d'économies par rapport aux dépenses qui existeraient en 2026, donc c'est un écart. Et la deuxième chose, c'est que, vous savez, j'ai été ministre de l'économie, j'ai rencontré mes collègues des autres pays de l'Union européenne. Quand vous expliquez que vous avez presque 6% de déficit et que vous allez revenir sous les 3% de déficit en plus de 5 ans, mais il n'y a pas un collègue européen qui considère qu'il s'agit d'austérité dans un des pays qui a le taux de dépenses le plus élevé de l'Union européenne. Donc, essayons de mettre les mots à leur juste place. Ce qu'on veut éviter, c'est une crise financière. Ce qu'on veut éviter, c'est une crise de la dette. Et donc, ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir un jour la Troïka, comme on dit, le FMI, qui vient nous expliquer qu'on doit réduire de 100, 150, 200 milliards en un an nos dépenses. Et pour éviter ça, oui, pour éviter ça, il faut faire collectivement des efforts.
On peut vraiment trouver 40 milliards d'euros sans augmenter les impôts, vraiment.
Et regardez, aujourd'hui, la dépense publique française, c'est un peu plus de 50% du PIB. Autrement dit, 57. C'est plus de 1500 milliards d'euros de dépenses publiques en France. Est-ce qu'on peut trouver 40 milliards d'économies sur 1500 milliards d'euros de dépenses? Je crois que dire que c'est impossible, dire que c'est de l'austérité, c'est ne pas regarder les ordres de grandeur.
Où est-ce qu'on va couper pour réaliser ces 40 milliards d'économies? Autrement dit, qui va payer? Parmi les pistes évoquées, il y a la pérennisation de la contribution exceptionnelle des plus riches, mais il y a également une possible réforme du modèle social, un coup de rabot sur les niches fiscales, ou bien encore une taxation des retraités aisés. Ça, ce n'est pas impactant pour les Français? Ça n'aura pas de coût social?
Je crois que le gouvernement s'est prononcé assez clairement en défaveur d'une nouvelle augmentation d'impôts ou d'une augmentation qui toucherait directement le pouvoir d'achat des Français. On verra ce que demain, après-demain, le gouvernement voudra mettre sur la table. Mais à nouveau, commencer la discussion en disant « dans ce secteur, on ne fera pas du tout d'économie. En matière de dépenses administratives, on n'y touchera pas. En matière de dépenses locales ou de santé, on n'avancera pas », c'est déjà s'assurer qu'on n'y arrivera pas. Et si on stigmatise à chaque fois le moindre effort dans la dépense publique, alors on est sûr de ne pas y arriver.
Il n'y aura pas d'économie indolore pour les Français, Antoine Armand.
Mais il y a, si vous passez l'expression, les meilleures économies sont celles qui prennent du temps. Parce que c'est celle qui réorganise une administration, un service, pour améliorer le service public, tout en faisant des économies. Mais plus on attend, plus on attend, plus on se dit qu'on peut encore attendre un an, qu'on ne veut absolument pas de rigueur, plus ces économies devront être rapides, de rabot, brutales. Donc je pense qu'il faut absolument, dès maintenant, dès ce printemps, poser les bases de ce que peuvent être les économies sur plusieurs années. Parce que quand vous devez transformer un service pour le rendre plus efficace, ça prend du temps. Quand vous faites les économies sur quelques mois, évidemment, c'est forcément un peu plus brutal, un peu moins pratique et un peu moins pertinent pour les services publics. Donc c'est dans cette direction-là qu'il faut réfléchir.
Alors avant même la conférence de presse du Premier ministre Bayrou demain, ces 40 milliards d'euros d'économies ont provoqué une véritable levée de bouclier, notamment à gauche, où la France insoumise dit qu'il faut plutôt taxer les riches, les milliardaires et réduire les aides aux entreprises. Ça va contre le sens historique. C'est un contresens du gouvernement, nous dit LFI. On est loin du consensus que vous allez rechercher.
Mais à nouveau, quand on regarde les choses au fond, quand on sort des postures politiciennes, on peut trouver des points de fond qui doivent nous rassembler. Je prends cet exemple que vous avez mentionné sur la taxation des plus riches ou des très très riches et sur la taxation des multinationales. On n'a pas attendu les vociférations de LFI pour y travailler. C'est ce qui a été mis en place par le précédent gouvernement pour qu'il y ait une taxation uniforme des multinationales au niveau de l'OCDE. Et c'est en train de rentrer en vigueur. De même, c'est la France, et la France d'ailleurs en tant que pionnière, qui porte une taxation uniforme via les sommets internationaux des plus riches. Mais croire qu'on va taxer en France encore plus, on est déjà le pays qui taxe le plus au monde, et en tirer des gains dans un monde ouvert, c'est complètement illusoire. Donc moi je veux bien qu'on raconte qu'on a trouvé une solution qui est $1 pour tout le monde, en ciblant l'un ou l'autre, en trouvant des boucs émissaires, mais à la fin, vous avez ni les boucs émissaires, ni l'argent, et donc ni la souveraineté.
Est-ce que le Premier ministre Bayrou n'a pas pris un risque en lançant d'ores et déjà la construction du budget 2026 déjà, on le disait, les syndicats mettent en garde le gouvernement, et de LFI au Rassemblement national, eh bien, on agite à nouveau la menace d'une censure au Parlement.
Écoutez, je ne crois pas qu'on prenne de risque quand on pose le constat, la vérité des choses. Dire que notre déficit est excessif et qu'il faut le réduire, ça devrait même pas être un objet de dissension. Dire que les impôts seuls ne peuvent pas permettre d'y arriver, ça devrait aussi être un objet de consensus. Donc chiche, essayons de le fabriquer, essayons de discuter avec les différentes forces représentées au Parlement pour arriver non pas à un consensus, je suis pas naïf, mais à au moins un début d'effort collectif vers un ressaisissement budgétaire national.
Quel impact sur la guerre commerciale en plein bras de fer avec Donald Trump sur les surtaxes américaines? Est-ce que ces mesures d'économie, ça veut dire également qu'il n'y aura pas de quoi qu'il en coûte pour venir possiblement demain en soutien aux entreprises ou aux salariés impactés par ces surtaxes américaines?
Mais j'entends effectivement ce raisonnement qui consiste parfois à dire, au moment où nous sommes menacés, où nous pourrions être affaiblis économiquement par des puissances comme les États-Unis et par leur démarche commerciale agressive, est-ce que vraiment c'est le moment de s'affaiblir en faisant des économies? Mais je crois tout le contraire. Je crois que c'est en réduisant nos déficits qu'on devient plus fort. Quand vous voyez la manière de raisonner, de réfléchir, de travailler des États-Unis, est-ce que vous croyez que vous avez plus de crédibilité, plus de force quand vous avez 6% de déficit ou quand vous avez l'équilibre budgétaire? Quand vous êtes au maximum de ce que vous pouvez faire en termes d'imposition et que les entreprises en souffrent, ou quand au contraire vous avez redonné de l'oxygène économique? Donc je crois qu'il ne faut surtout pas opposer les deux, on le fait. Pour nous, on le fait pour nous, Français, pour redevenir plus forts.
Je reste un instant sur cette guerre commerciale. Après la pause de 90 jours décidée par Trump, les négociations commencent aujourd'hui avec un envoyé spécial de l'Union européenne à Washington. Est-ce que c'est, selon vous, Antoine Armand, la bonne formule? On négocie tout en prévoyant la riposte?
Je crois que c'est la bonne formule parce que, au-delà de l'agressivité, de l'hostilité qui a été marquée par Donald Trump dans ses déclarations et puis dans ses agissements, dans ses annonces, il y a le piège aussi qui est tendu. Le piège classique de faire passer l'agressé pour l'agresseur, de faire croire que ce serait l'Union européenne qui chercherait l'escalade. Donc on a bien fait de montrer que nous étions prêts à riposter, mais il faut absolument montrer que nous ne sommes pas les agresseurs, nous ne sommes pas ceux qui ont lancé les hostilités et que notre porte est ouverte pour discuter parce qu'à la fin, tout le monde y perd, les consommateurs européens, les consommateurs américains.
Et le recul de Donald Trump sur les produits numériques, c'est un bon signe à votre sens, en deux mots ?
C'est le sens qu'on touche à des choses qui sont de l'ordre de l'intérêt vital pour les États-Unis, et sans doute aussi, pour l'avoir vu aux États-Unis, que certains membres du big business, comme on dit là-bas, commencent à s'inquiéter sérieusement de l'impact économique de la politique de Donald Trump.
Merci Antoine Armand, ancien ministre de l'économie. Bonne journée à vous.
Antoine Armand qui répondait aux questions de Véronique Rigolet. Restez avec nous dans un instant, l'actualité européenne sur RFI.
Ce lundi sur RFI.
Comment monter dans le bus spatial au Sénégal ?
Autour de la question.
Pendant 37 jours, à travers des expositions, conférences et ateliers, des animateurs sillonnent 14 régions du pays pour montrer aux Sénégalais l'impact de l'exploration de l'espace sur le développement durable et leur vécu au quotidien.
Autour de la question avec Caroline Lachowski, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI, mais aussi en podcast sur RFI.fr.